C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, nos commissaires sont de retour ce matin. Monsieur le commissaire Ferrandez,
bonjour.
Votre fauteuil vous attendait. Alors, Québec qui veut évidemment ajouter à l'arsenal de la lutte contre la violence conjugale un nouvel outil, c'est-à-dire que Ottawa inclut dans le code criminel ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Contrôler les finances, les allées et venues, c'est pas de la violence physique, mais c'est une forme de violence psychologique. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de mettre ça dans le code criminel? Nathalie.
C'est une très, très bonne idée. C'est un bel exemple de leadership constructif qui s'est exprimé sur le plan politique la semaine dernière, jeudi dernier, la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Félicitations d'ailleurs aux deux ministres qui portent au nom du gouvernement du Québec cette volonté de voir le code criminel être modifié. Simon-Jolin Barrette, Martine Biron, qui ont décidé d'unir leurs forces pour convaincre Ottawa. Et cette volonté d'ajouter au code criminel la dimension, le concept de contrôle coercitif, c'est inscrit aussi dans une volonté de moderniser le code criminel pour que les sanctions qui sont prévues puissent mieux refléter la réalité des femmes qui composent avec la violence conjugale. Tu parles, Paul, d'une violence insidieuse. Lorsqu'on parle de contrôle coercitif, là, c'est bien que tu aies souligné l'aspect financier qu'on a tendance à oublier, mais essentiellement, c'est une forme de violence qui s'exerce, semblerait, dans 92 % des cas de violence conjugale.
Dans les cas de féminicide.
Aussi, c'est ça. Et il semblerait que, en fait, merci de préciser, oui. Luc, parce que c'est pas tous les cas de violence conjugale qui conduisent à des féminicides. Et c'est extrêmement malheureux lorsque ça arrive. Mais c'est, par exemple, un homme qui exerce une emprise sur sa femme ou son ex-conjointe. Hein. Tu sais, tu plonges ta victime dans l'isolement, tu la prives de lien avec ses amis, avec les membres de sa famille, tu la menaces de perdre ses enfants, tu la dénigres sur la façon dont elle s'habille, tu lui fais perdre confiance en elle. En fait, tout ça, ce n'est pas évidemment prévu au code criminel. Alors, moi, je dis bravo. Écoutez, moi, j'applaudis là à deux mains. Je trouve ça absolument formidable, cette démarche. Et selon moi, déjà les échos qu'on a du côté d'Ottawa, c'est que la demande est reçue de façon positive et il n'y a aucun enjeu transpartisan sur cette volonté exprimée par Québec. On s'entend là-dessus. Là. Je veux dire, tous les partis politiques, autant l'Assemblée nationale qu'à Ottawa, sont d'accord avec cette volonté de modifier et de moderniser le code criminel.
Moi aussi, j'applaudis, mais juste à une main. Fait que ça a moins d'impact, tu me diras.
C'est dur d'applaudir juste à une main.
Ça a moins de bruit, là.
Non, moi, je suis contre.
Pourquoi?
Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai qu'il y a une vraie violence conjugale qui est une violence coercitive, là, où il y a un contrôle des finances, des sorties, l'isolement, le contrôle des amitiés, la domination au quotidien, les cris, les menaces, les humiliations. Et tout ça constitue un ensemble. Parce que tu ne seras pas accusé parce que tu as humilié une personne devant tout le monde en disant on sait que t'es pas bonne à rien ou tu te feras pas accuser parce que t'as donné une baffe un jour un jour de brosse, mais c'est le total
de te faire accuser.
Ben pas tant que ça, parce que
l'alcool peut pas être un élément.
Ouais, mais c'est vrai. Je le dis pour susciter la réaction, parce que dans toutes les études populationnelles sur la violence, les femmes frappent plus les hommes que le contraire. Dans toutes les chicanes domestiques, morsures, coups de pied, renversement de meubles, ou lancer des assiettes par la tête, etc. Que ça soit en France, au Royaume-Uni, au Canada, toutes les études populationnelles indiquent que les femmes frappent plus souvent que les hommes. Le problème, c'est que la violence conjugale, c'est bien plus que donner une baffe. Une baffe, c'est pas ça. Sinon, il faudrait que la police soit constamment chez toutes les familles. C'est, pas toutes, mais dans plusieurs familles. C'est le total de tout ça. C'est, je contrôle les finances, je frappe, je contrôle les amitiés, je contrôle le téléphone. Là, t'as un ensemble qui mène vraiment, ça mène au féminicide en bout de ligne. OK? Des féminicides, c'est pas tout le monde non plus, là. On s'entend, 13 certaines années, c'est monté de 7 à 13, moyenne, un peu en bas de 20. Fait que c'est pas toute la violence conjugale qui est du féminicide. Mais oui, ça mène au féminicide, ce genre de comportement-là. Or, c'est très difficile de démontrer qu'il y a une chaîne entre tous les éléments. Et, parce que il faut que le procureur démontre l'ensemble, pas juste les éléments pris séparément les uns des autres. Par exemple, le contrôle financier. Dans toutes les familles québécoises, pendant des années, dans beaucoup de familles québécoises, pendant des années, la femme contrôlait le budget. Pas vrai que tu vas prendre de l'argent pour aller à la taverne. Moi, quand je travaillais chez Hydro-Québec, puis qu'on donnait les perdièmes en argent, puis qu'on a décidé de les mettre sur les chèques de paye, les gars étaient pas contents parce qu'ils disaient « Non, mais là, ça va tomber dans le budget familial. Moi, j'aimerais ça avoir mon perdièmes à part. » Fait que, mais donc, c'est l'ensemble qui constitue le crime. Or, cet ensemble-là, on a déjà essayé de le pogner avec un concept qui s'appelle le harcèlement criminel. Puis le harcèlement criminel, ça n'a pas fonctionné comme outil de gestion.
Vrai, ça.
Ben oui, c'est-à-dire selon ce bon,
ben, c'est pas juste ce qu'il va dire.
Oui, ça existe.
C'est
oui,
donc c'est Rachel ça, Chagnon qui a fait les études là-dessus. Elle a dit que ça fonctionnait peu parce que il faut que la couronne a une charge énorme de démontrer que tous ces éléments-là sont liés les uns aux autres. Et c'est très très difficile à faire valoir. Donc ça fonctionne peu ou pas. Parce qu'on ne va pas utiliser cet outil juridique-là. Comment on va faire pour utiliser l'outil juridique du contrôle coercitif? Ça va prendre des mois d'enquête.
L'exemple du harcèlement, c'est exactement le cas qui a été publié la semaine passée par Isabelle Haché. Le cas là, du harceleur qui reçoit des indemnités de l'IVAC. Là, ben, lui, il a été accusé, entre autres, de harcèlement. Hein. Deuxièmement, Luc, si je comprends bien ton argumentaire, tu es réfractaire à cette idée d'inclure le concept de contrôle coercitif dans le code criminel parce que tu doutes de la capacité corrompue des juristes à mettre en branle un concept comme celui-là. Mais moi j'ai envie de te dire Luc, si on était toujours motivé par ce type de raisonnement, ben jamais le code criminel aurait été modifié au cours des années là. À un moment donné, il faut tester les lois et ça en fait partie. D'ailleurs, les experts recommandent au ministre de la Justice au fédéral de prévoir une année de transition pour permettre aux avocats autant de la défense que de la couronne de définir ce qu'est exactement, de circonscrire ce que pourrait être ce concept. On a déjà une idée de ce que c'est, on vient de le dire, mais dans les faits, là, comment on applique ça lorsque vient le temps d'accuser une personne, ça représente un défi, mais c'est pas parce que ça représente un défi qu'on doit évacuer cette option-là. Puis lorsque j'ai dit tout à l'heure, Luc, que dans 92% des dossiers de violence conjugale, il y a un contrôle coercitif, là, je corrige. C'est pas juste dans les cas de féminicide, j'insiste. C'est Maître Marie-Claude Richer, qui est avocate et directrice du projet Rebâtir, qui l'a souligné. Les cas de violence conjugale, c'est vrai, ne conduisent pas tous, heureusement, à des cas de féminicide et d'infanticide, mais 92% des cas recensés, l'homme, parce que je dis l'homme parce que souvent c'est des hommes, puis je veux pas minimiser le fait qu'il y a des hommes qui vivent la violence conjugale, mais dans 92% des cas, écoute, c'est tellement insidieux tout ce qui est.
Donc Rachel Chagnon dit la même chose que toi, Nathalie. Là, je l'ai citée, mais je veux pas la citer à tort. Elle dit que selon elle, il faut quand même le faire, mais elle dit que ça va être très très peu utilisé parce que la preuve, elle doit être hors de tout doute parce qu'on parle du droit criminel, ok? Donc mm-hmm. Rachel Chagnon, c'est la doyenne de la faculté de sciences politiques de droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle connaît le droit, ok? Et donc ce qu'elle dit, c'est oui. On comprend que c'est comme ça que ça fonctionne dans un couple où il y a de la violence extrême. On comprend que c'est ça. Maintenant, le démontrer au criminel, il faut le démontrer hors de tout doute raisonnable. Par contre, au civil, ça a été accepté et c'est très, très, très utilisé. Là. Il y a énormément d'accusations au civil qui utilisent le droit, la violence coercitive. Moi, je tombe en bas de ma chaise pour une autre affaire. Il y a deux semaines, plusieurs groupes féministes, dont par exemple le groupe des droits des femmes, ont demandé à ce que soient retirées les accusations pour aliénation parentale parce que c'était difficile à démontrer en cours. Ben, l'aliénation parentale serait trop difficile à démontrer en cours, mais la violence coercive, elle, serait facile à démontrer en cours.
Si tu veux mon avis, là, l'aliénation parentale, c'est aussi insidieux que le contrôle coercitif.
Totalement.
Parce que, puis quand on a parlé de ça il y a quoi, deux semaines environ, l'avalanche de commentaires que j'ai reçus d'hommes et de femmes qui vivent ça, qui sont victimes d'aliénation, un père qui est victime, une mère qui est victime, il y a un nouveau conjoint, il y a toutes sortes de... Les enfants... Écoute, il y a un monsieur qui m'écrit « Mes enfants ne me parlent pas depuis 15 ans, là, j'ai pas toute son histoire », mais ce que je veux dire, c'est que ça existe. C'est vrai que c'est difficile à prouver, parce que il y a pas vraiment de preuves. Moi, je pense que le contrôle coercitif, c'est plus facile à prouver que l'aliénation parentale.
OK, mais dans les deux cas, c'est une chaîne d'événements.
C'est sûr.
C'est une chaîne d'événements sur plusieurs années à tâche tatuque. Et moi, ce que je pense, c'est que là, au civil, là, c'est des causes qui durent 8 ans, ça. Hein?
Ah, oui.
Et puis qui rubine la famille bien comme il faut.
C'est sûr.
Complet, là.
C'est sûr.
L'autre élément que je souhaiterais soulever, lorsque les policiers arrêtent un homme pour violence conjugale, Moi, je dis que l'homme ne devrait pas être remis en liberté sous promesse de comparaître. Il y a eu un cas en août dernier, Yannick Lamontagne, près de Joliette, qui n'a pas accepté sa séparation et pour se venger, il a tué ses jumeaux de 3 ans avant de s'enlever la vie. Le gars, il était accusé, puis on l'a remis en liberté justement sous promesse de comparaître. Est-ce que le système de justice pourrait réfléchir à cette possibilité d'être davantage proactif dans les cas précis de violence conjugale? Parce que le gars, là, écoute, il est en maudit, pour ne pas dire autre chose. Il se fait arrêter par la police. Puis là, on dit de se calmer jusqu'au moment où il va comparaître. Souvent, c'est long, entre le moment de l'arrestation, de la comparution. Mais qu'est-ce que vous pensez que le gars va faire? Il est motivé, lui, là, par un désir de vengeance. Il est en maudit parce que son ex a fait une plainte à la police. Est-ce que le système pourrait réfléchir sur cette dimension pour protéger davantage les femmes et les enfants?
Luc, en conclusion.
Il va y avoir une dimension culturelle aussi très importante. Quand on va commencer à interpréter le contrôle financier, par exemple, ça sera pas, c'est pas pareil dans toutes les cultures. Donc, il va y avoir une dimension très difficile à juger en cours.
Valérie Plante veut savoir qui est intéressé à se présenter contre elle. Même les gens qui ont officiellement dit non font l'objet du sondage.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on pouvait lire en fin de semaine que Projet Montréal teste la popularité de la mairesse face à des potentiels candidats-candidates. Alors, vous voteriez pour qui? Valérie Plante contre Sophie Brochu, Valérie Plante contre Pablo Rodriguez, Valérie Plante contre Mélanie Joly. Et la question, c'est aussi, on mesure la perception des Montréalais sur un certain nombre de sujets. Bon, on peut penser l'état des rues, puis etc., etc. Alors, est-ce que Valérie Plante, même si elle a déjà dit qu'elle voulait se représenter, qu'elle est toujours la mairesse de la situation?
Ben moi, je pense que l'opposition fait valoir qu'il y aurait 57% d'insatisfaction. Donc, évidemment, eux autres, le parti Projet Montréal sent l'eau chaude. C'est sûr que Valérie Plante ne se présente pas pour perdre. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un score ou si le sondage était à 40%, là, elle va donner sa démission, je pense. Compte tenu de ce que je vois de sa personnalité, là, c'est pas une femme qui va apprécier être dans l'opposition après avoir été 8 ans au pouvoir. D'ailleurs, c'est le cas de la plupart des gens qui ont été au pouvoir. Tu sais, la ville s'est divisée en... elle est dure à comprendre, la ville de Montréal, puis c'est politiquement compliqué. La ville s'est divisée en des secteurs qui ont des modes de vie complètement différents. T'as les quartiers de banlieue qui ont des attentes très limitées sur les services de base, c'est-à-dire stationnement, circulation, taxes, entretien, sécurité. Là, t'as Pierrefonds, Île-Bizarre, Ville-Saint-Laurent, Anjou, Saint-Léonard, La Salle. T'as des quartiers où il y a ça, l'entretien de base, quoique c'est beaucoup moins important pour ces quartiers-là. Puis après ça, embarque un paquet d'enjeux progressistes comme le logement, la sécurité des cyclistes et des piétons, les équipements publics, l'aménagement, l'environnement, la santé des artères, des commerciales, le dynamisme du centre-ville, etc. Le visage français de la ville de Montréal, c'est important aussi. Et t'as les quartiers qui sont sur la ligne entre les deux, NDG, Rivière-des-Prairies, Antique, La Chine, Pointe-aux-Trembles. Fait qu'il faut que tu sois fort dans la base pour aller chercher les quartiers plus conservateurs. Il faut que tu sois fort dans les enjeux de société pour aller chercher Plateau, Villeray-Rosemont. Puis si tu réussis à être fort dans ces deux affaires-là, tu vas aller chercher les quartiers qui swingent d'un bord puis de l'autre, comme NDG, Rivière-des-Prairies, Antique, La Chine, etc. Et ça, la base, pour comprendre si tu peux être fort dans tout ça, c'est que tu n'as jamais assez d'argent pour tout faire. T'as pas assez d'argent pour faire la base, qui est déneigement, police, etc. T'as pas assez d'argent pour faire face aux grands enjeux, itinérance, logement, etc. Fait qu'il faut que tu navigues dans tous ces enjeux-là pour essayer de satisfaire tout le monde. Et c'est quasiment impossible. Fait que moi, je pense que là, c'est très, très dur.
Mais c'est quoi le profil de la personne, homme ou femme, qui peut battre Valérie Plante?
C'est quelqu'un qui est assez peu informé pour s'imaginer qu'elle va régler le problème. Et donc, qui va arriver là gonflé en disant « Moi, je vais tout régler. » Puis qui qui va avoir assez de leadership pour le faire croire au monde.
OK.
Ça, c'est le profil.
Ouais. Parfait. Nathalie.
Ben merci, Luc, pour ton cours 101 de stratégie politique. J'imagine que Projet Montréal et Ensemble Montréal pourraient te remercier ce matin. Paul, ta question est intéressante. Valérie Plante était toujours la femme de la situation. Une question qui fait écho au slogan qu'elle a utilisé. Je sais pas si c'est pour sa première campagne en 2017 ou la dernière, enfin.
La première.
Et pour les autres,
la première, hein, c'est ça.
Exactement, c'est ça, tout à fait. Pour les auditeurs qui seraient tentés de s'offusquer, là, face à la démarche de Projet Montréal qui veut tester la popularité de sa mairesse, là, ben, calmez-vous parce que c'est pas la première fois qu'un parti politique utilise ce genre de moyens, ce genre d'exercice pour tester soit la popularité de son chef ou la popularité tout court de son parti. C'est vraiment, les sondages, c'est un indicateur assez puissant pour mesurer la satisfaction. Dans le cas qui nous occupe, c'est la presse qui a révélé ça. C'est fort intéressant. Un sondage en deux temps, tester les adversaires éventuels puis tester les qualités, le bilan de la mairesse Plante. Sur les adversaires éventuels, Sophie Brochu, Pablo Rodriguez, Mélanie Joly, Dominique Anglade, toutes ces candidatures relèvent, les amis, du fantasme. Ça n'arrivera jamais. Dominique Anglade a confirmé à ton micro, Paul, qui n'était pas intéressé. Sophie Brochu l'a dit également. Pour ce qui est de Mélanie Joly, Pablo Rodriguez, si jamais ils étaient défaits à la prochaine élection, probablement qui aura lieu dans un an, au printemps 2025, ils vont se rabattre. Ils ne choisiront pas de se rabattre sur la mairie de Montréal. Oubliez ça, ça n'arrivera pas. Selon moi, les deux candidatures les plus probables, c'est Michel Leblanc, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et Arif Salem, chef intérimaire d'Ensemble Montréal. Dans le cas de M. Salem, là, il branle dans le manche, il est chef intérimaire, il ne sait pas s'il veut devenir chef tout court d'Ensemble Montréal, on verra bien. Dans le cas de Michel Leblanc, il n'a pas fermé la porte. C'est une candidature qui est appréciée et bien connue du milieu des affaires, mais il n'est pas connu du grand public. Tout ça pour vous dire que Projet Montréal a du chemin à faire parce que l'actualité publiait, pas plus tard qu'en janvier dernier, un sondage sur la popularité de plusieurs élus au Québec, là, dans les trois paliers de gouvernement, et la mairesse Plante a levé un bon vent de face contre elle. En fait, il y a 53 % des répondants qui avaient une mauvaise opinion de la mairesse. Là, tu parlais, Luc, tantôt de 57 % selon l'opposition à l'Hôtel de Ville. Alors, ça, c'est intéressant parce que les deux chiffres...
Un jour, tu as rajouté un petit 4 % à maison.
Non, mais c'est intéressant parce que les deux chiffres se rapprochent. Alors, ouais. Dans le cas de la mairesse de Montréal, moi, je vous dis, elle n'est pas encore battue. Parce que ça va dépendre de ses adversaires. L'autre chose, si elle est si peu populaire aux yeux du grand public, c'est probablement parce que son administration a pris des décisions qui sont polarisantes. On a parlé déjà de la décision de Camille Houde sur la montagne. Après ça, il y a son fameux réseau express vélo. Et c'est une mairesse qui est très dédiée à l'amélioration de la mobilité. Alors ça choque beaucoup de Montréalais. Moi, je pense qu'elle a de grandes forces. Le fait d'être une femme, pour moi, c'est une force. Elle a une très belle personnalité. Elle a démontré ce dont elle était capable. D'ailleurs, elle doit remercier Fadi Daguerre. Hein. Elle a eu l'intuition de l'embaucher. Grâce à Fadi Daguerre, là, tout l'enjeu de la violence armée à Montréal est beaucoup... On sent que la ville a le contrôle sur la situation, mais il y a quand même des enjeux qui demeurent extrêmement préoccupants. La gestion des chantiers, la présence des cônes oranges, la mairesse a pris des engagements là-dessus, c'est pas encore livré. L'économie, la propreté de la ville, hein, on en a parlé la semaine passée. L'enjeu lié au logement, est-ce que la ville va finir un jour par réduire la bureaucratie puis l'émission des permis? L'économie de la métropole, on n'en parle pas beaucoup, là, mais comment Montréal peut continuer à être attrayante pour les investisseurs étrangers. Bref, j'ai bien hâte de voir quel bilan elle-même tracera de ses 4 ans d'administration. Mais je vais terminer là-dessus. Puis Luc, tu peux peut-être nous aider ce matin. Moi, je trouve qu'il y a encore un mystère entourant Valérie Plante. Je n'arrive pas à j'arrive pas à saisir quelles sont ses véritables convictions. Au-delà de la mobilité, là, toi, tu te battais, Luc, là, pour les sens uniques, là, sur le plateau, l'écoute, là. Tu as laissé ta peau, tu comprends, là. Écoute, contre vents et marées. La part de la mairesse, je sens pas ça. C'est-à-dire que.
Mais je pense que la mairesse a compris que ça lui prenait 7,5 sur 10, à la fois dans les enjeux qui vont satisfaire, mettons, Anjou puis Ville-Saint-Laurent, puis 7 sur 10 dans les enjeux, 7,5 sur 10 dans les enjeux qui vont satisfaire Villeray, Plateau-Rosemont, Ville-Marie, Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve. Et 7,5, ça donne pas une image de quelqu'un qui, effectivement, a quelque chose à cœur. Tu sais, un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. Puis aussi, un deuxième élément, c'est que, il y a des enjeux dans lesquels elle a déclaré son impuissance. Itinérance et logement.
Son gros cheval de bataille, le logement.
Oui, mais à un moment donné, elle a dit clair, net et précis, on n'y arrivera pas sans Québec et sans Ottawa, et surtout sans Québec, parce qu'elle prétend que Québec retient des sommes d'Ottawa. Alors, à partir du moment où c'est dit, puis là, il y a l'autre enjeu du centre-ville, où il y a eu des efforts qui ont été consacrés, on s'entend, pour qu'il y ait un dynamisme, puis que c'est une assez bonne note, le centre-ville, par rapport à d'autres, après la pandémie. Néanmoins, on sent que le nom plus, elle n'a pas complètement le contrôle. C'est pas elle qui va décider si les gens restent en télétravail ou pas. C'est pas elle qui... La spéculation immobilière, t'es supposé d'arrêter la spéculation immobilière avec le 20-20-20. C'est le contraire qui s'est produit. Donc, malgré les efforts, elle n'a pas une note qui est... Il y a un terme américain, stellar, là. Tu sais, comme wow, wow, wow.
Mais pour bien des gens, là,
ouais.
sais, tu disais de se convaincre qu'on peut tout changer alors qu'on peut pas tout changer. Si tu dis aux Montréalais, vous payez trop cher de taxes pour ce que vous avez. Vos rues sont mal entretenues. Il y a des comptes partout. La vie économique est pas intéressante. Moi, je vais changer ça. Tu comprends? Ça, c'est le genre de discours. Là.
Moi, mais qui va l'exprimer? Parce que c'est vrai que c'est ça qu'il faut dire. Ben, mais qui va l'exprimer?
Poilievre, il a tout compris, lui, là. Voilà. Là. T'sais, tout se ramasse, puis il est rendu à 20% de vote, d'intention de vote en plus que Trudeau. Je sais que ça, c'est bête, puis c'est plus que ça une ville, mais si tu veux te battre contre Projet Montréal, qui est au pouvoir depuis 8 ans, c'est le genre d'argument.
Mais regarde,
là.
Pourquoi pas? Elle s'est présentée comme quelqu'un qui vise la moyenne dans l'ensemble des dossiers, puis même plus dans certains dossiers, mais mettons la grosse moyenne dans l'ensemble des dossiers. Quelqu'un qui arriverait puis dit, gars, moi, là, je vais régler le problème des taxes à Montréal, puis voici ce que je vais faire, A, B, C, D. C'est vrai, ça prendrait, mais il faudrait qu'il se concentre sur une chose. Parce que s'il dit qu'il va garder les arénas ouvertes, les patinoires ouvertes, les piscines ouvertes, les bibliothèques ouvertes, qu'il va mieux déneiger, qu'il va régler les nids de poules, qu'il va faire plus d'agrandissement des parcs, qu'il va s'occuper de l'environnement, qu'il va s'occuper des égouts, qu'il va continuer de construire l'usine de filtration des eaux, puis qu'il va faire une meilleure entente avec les policiers pour qu'ils restent à plus long terme à Montréal, pour que ce soit plus facile de les recruter, puis pareil avec les pompiers. S'il dit tout ça, c'est un bandit.
C'est clair, jamais
c'est
dire net, ça,
c'est français, c'est précis. Merci, bonsoir.
C'est 23.